Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce. Monos, un film d'Alejandro Landes avec Moises Arias, Sofia Buenaventura, Julian Girardon, Laura Castrillon, Karen Quintero et une seule américaine, Julianne Nicholson, une seule américaine, car on va suivre une bande de petits miliciens, et petits pas seulement par la taille, mais aussi par leur âge, ils sont à peu près des adolescents, qui vont s'occuper de tenir en otage une docteure, docteur Sarah Watson, qui est donc jouée par Julianne Nicholson, et on va les suivre petit à petit, au début tout va bien, et puis ils vont être livrés à eux-mêmes, jusqu'à péter complètement un plomb, et descendre de la montagne où ils étaient au départ jusqu'à la jungle. Ça va devenir poisseux, ça va devenir violent, comme on s'y attendait. Nam, on parle de violence, on parle de poisse, mais avant tout, c'est un film qui a une jolie photographie.
Oui, très beau, surtout notamment dans la première partie du film, ouais, qui se passe à la montagne.
On est au-dessus des nuages.
Mais le décor est incroyable. Ouais.
Il y a un côté, moi je sais pas, il y a un côté un peu fantastique, ça...
Ah mais t'avais vraiment le côté mer de nuages,
ouais,
un endroit vraiment hors du temps, hors de l'espace.
Mais ça m'a un peu
où
pensé.
Ils sont en huis clos dans leur bulle, oui.
Mais ça m'a un peu fait penser à la forêt de sortilège dont on parlait,
oui,
pour la prochaine, lors de la précédente émission, cet endroit semi-mystique et qui paraît, loin de tout, loin des hommes, quoi.
Et ce qui permet aussi d'accepter le fait que ces enfants forment un microcosme, une espèce de nouvelle société. C'est un petit peu. On est un peu dans du cadre d'enfants,
oui,
sauvages croisés avec de la milice armée.
Mais pour le coup, je vais rentrer un peu rapidement dans le vif du sujet.
Oui.
Pour le coup, je trouve que ça se voit notamment plus dans la deuxième partie du film qui se passe à la jungle. Et du coup, le décor est vachement moins joli parce que...
Oui.
La montagne,
c'est hostile.
Oui, à la montagne, on voyait déjà plus ce qui se passait autour. Et puis là, d'un coup, c'est tout, les décors sont tout fermés. Et je trouve que le film... Quand il commence à être intéressant, c'est quand il se débarrasse de son scénario et qu'il essaye vraiment de nous montrer des choses, de nous faire ressentir des choses. Et au final, c'est ces scènes-là qui sont les plus montrées dans la bande-annonce, par exemple. Mmh. Parce que c'est les scènes les plus recherchées, les plus impressionnantes, même visuellement. Voilà, moi je trouve ça sympa.
Lila.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec Nam, parce que effectivement, si tu tiens au scénario du film, c'est assez léger. Ça tient, enfin voilà, ça garde pas ton intérêt aussi longtemps. Après, là où je suis, enfin je sais pas si c'est vraiment en contradiction avec ce que tu dis, mais effectivement moi il y a un changement clairement de photographie entre la montagne où t'as ces grands espaces dégagés et la jungle où forcément je veux dire c'est dense quoi, donc t'es sur des plans plus rapprochés, mais moi justement j'ai bien aimé ce moment où ça change parce que la jungle a un côté justement moins austère, beaucoup plus physique, beaucoup plus, tu sens. Dans la montagne, il y a le froid. Mais dans la jungle, tu sens tellement plus la puissance des éléments, leur agressivité sur les corps, ce genre de...
La chaleur, c'est très poisseux d'un coup.
La chaleur, c'est poisseux, il y a les moustiques, il y a la boue.
Ça colle avec la narration dans le sens où ils sont pourchassés, ils ont un sentiment d'être pris au piège, et partout autour d'eux, il y a ce côté, ils sont presque étouffés par la végétation et puis par le contexte.
Et au final, même s'ils sont cachés dans la nature, que ce soit à la montagne ou même dans la jungle, il y a vraiment ce côté huis clos qui s'installe, vraiment de société quasi parallèle au monde. Parfois, ils font des petites incursions, par exemple, comme on voit dans la jungle, à un moment, comment, ils se mettent de la boue partout comme dans Predator et puis ils vont braquer des voitures, tu vois. Mais en même temps, t'as ce côté où bah, quand la journaliste essaie de s'enfuir ou quand il y a un autre qui essaie de s'enfuir, je sais pas comment ils font, mais à chaque fois ils retombent sur eux. Alors que tu te dis, bah, c'est la jungle, tu vois, ouais, pas 3 mètres devant toi, ça va être un peu compliqué. Bah non, à chaque fois ils retombent dessus. C'est vraiment un espèce de ouais, truc huis clos, donc tu peux pas sortir.
Tu fais bien de redire le côté un peu huis clos. Moi je l'ai ressenti parce que peu importe où ils vont, c'est le même endroit. C'est ça qui est formidable. C'est que ils sont tellement pris au piège qu'ils avancent, ils font qu'avancer. En fait, c'est une fuite en avant, et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que c'est le genre de film fuite, mais dont les décors ne changent jamais. En fait, c'est très similaire au désert, par exemple, où du coup on a cette espèce de d'échappée immobile qui rend l'impression de piège, et là aussi l'impression de paranoïa, parce qu'il y a beaucoup de paranoïa dans ce film, d'autant plus prégnant.
Non, mais je dis, vu ce que tu dis, on vous invite aussi à écouter le podcast sur Vivarium, parce que mais blague à part, ce qui m'a aussi, je pense, permis de beaucoup plus me connecter d'un point de vue émotionnel au film, d'un point de vue limite philosophique, c'est l'absence de contexte, finalement. Parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu dans le Nocturama de Bonello, où on voit ces jeunes qui perpétuent des attentats, mais on sait pas qui ils sont, on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas pourquoi ils font ça. Et là c'est pareil, en fait, le groupe de miliciens qu'on suit, ils se réfèrent à l'organisation, mais on sait jamais concrètement quels sont leurs objectifs, pourquoi ils sont ça, pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont arrivés là. On est juste face à leurs actes, dépourvus de causalité quelque part, et ça nous interroge beaucoup, mais ça nous oblige à nous focaliser sur vraiment ce qu'on a face à nous, quoi.
Malgré toutes les choses que vous avez dites et auxquelles je suis d'accord, et même j'ai apporté des arguments, j'ai été très mitigé, je pense, contrairement à vous qui avez plus apprécié le film. J'étais assez mitigé justement parce que j'ai trouvé que le film manquait énormément de caractérisation, et que là où peut-être c'est pas bête la comparaison avec Nocturama de Bonello. La première partie de Nocturama était, je trouve, très très belle, parce que justement, on n'avait aucun objectif. Là, l'objectif, il est placé dès le départ, c'est de garder et d'accompagner l'otage. Donc tout de suite, on a un objectif qui est placé. Et face à cet objectif, on a plus ce côté un peu émotion dénudée, personnalité dénudée, parce que tout le monde se réfère à cet otage-là, et donc au film narratif. Et j'ai malheureusement trouvé que les personnages étaient des coquilles assez vides, et c'est vraiment des figures. Alors on a le petit chef-tin qui va péter un câble, on a le mec un peu trop mou qui va forcément se faire attaquer, les personnes qui sont en duplicité,
il y a vraiment un côté archétypal dans leur relation. Et au final, même quand il parle, où il y a cette scène où il y a le messager qui va les voir et il leur demande à chacun de dire un truc qui va pas, et en fait c'est vraiment que des trucs qu'on sait déjà, en fait. Et c'est les seules choses qui intègrent les personnages. Genre la Lady qui est toujours avec le chef. Le chef, à un moment, c'est Wolf, il meurt, du coup il est remplacé par Dog le chien. T'as Boom Boom.
Oui, ils ont des surnoms à la con.
Boom Boom, c'est le mec, il parle jamais, tu sais pas ce qu'il veut. Il est juste présent et il survit à la fin, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Ou Rambo, dont ils veulent te faire croire que c'est un garçon pendant tout le film, mais je suis pas convaincu.
Ça t'a pas dérangé, justement, le fait qu'on n'avance pas avec ces personnages et qu'il n'y ait pas de caractérisation?
En même temps, les personnages avancent pas non plus, tu vois.
Certes, mais alors,
il y a juste un truc qui va changer dans le film, c'est qu'à un moment, t'as Rambo, je crois, c'est son anniversaire, et du coup, il se fait fouetter par tout le groupe. Mais c'est le seul truc qui montre qu'il y a une petite évolution dans les personnages.
Moi, quelque part, je trouve ça assez cohérent, le fait que ce soit tous des personnages hyper archétypaux, parce qu'au final, on parle d'adolescents qui ont sans doute été super tôt dans leur vie, quelque part, contrôlés par des mouvements, quel que soit leur objectif, mais qui, en tout cas, on peut subir un lavage de cerveau, et qui, au final, ont ces archétypes comme seul modèle, qui se construisent comme ça parce que au final ils sont dans un huis clos, ils sont entre eux, ils sont dans une idéologie qui les coupe totalement de la réalité, et pour moi c'est normal qu'ils aient pas plus de profondeur que ça. Alors, se définissent par leurs actes.
Si ils n'évoluent pas en tant que personnages, l'autre grand thème du film, c'est la violence physique. C'est pas, on parle pas de violence symbolique, c'est de la pure violence physique. qu'est-ce que ça apporte ? Parce que typiquement, les victimes de violence sont les victimes de violence, les pourvoyeurs de la violence sont les pourvoyeurs de la violence. Il n'y a pas d'état de fait. Qu'est-ce que ça m'apporte en tant que, dans le sentiment, dans l'émotion, dans, je veux dire, les causes et les effets sont, de la violence sont respectés de bout en bout, d'un instinct de violence qui est toujours perpétué. J'ai pas eu l'impression que le film m'apportait un contrepoint ou appuyait pour montrer une espèce de vice moral ou au contraire de dire c'est pas grave, en fait c'est des enfants sauvages, du coup ils font un peu ce qu'ils veulent. J'ai l'impression que le film tranchait jamais de morale et montrait juste la violence telle qu'elle a toujours été, telle qu'elle sera toujours.
Oui, c'est
il y a une espèce de statu quo.
Il y a une espèce d'aspect commun à la violence qui vive et qui perpétue. Ça a toujours été leur vie.
Un petit peu. Moi, d'un côté, ça m'a un peu rongé mon implication dans le film. Voilà.
Non. Désolé.
C'est pas une question qui apporte forcément une argumentation très forte.
Non, effectivement, parce que moi je l'ai reçu comme un film étant plus du côté de la perception que la raison, étant plus sur les sensations. Et du coup, pour moi, la morale elle passe par la sensation, par le fait que tu te sentes pas à l'aise face à ce que tu vois, par le fait que par exemple, moi je pense que le passage que j'ai trouvé le plus rude, c'est quand la doctoresse, l'otage s'enfuit et pour le coup c'est pas de la violence qui a été perpétrée directement par les autres, mais juste par la nature quand elle essaie de survivre toute seule et que elle se prend les averses, les moustiques, tout ce que tu veux sur la gueule, quand tu t'éprouves vraiment physiquement ce qu'elle reçoit. Et pour moi la morale elle se situe de ce côté là dans le sens où c'est horrible en fait.
C'est juste horrible. En fait, je suis juste insensible.
C'était horrible, mais visuellement, c'était joli. Visuellement.
Oui, mais du coup, le... Oui. Bon.
Bah si, quand même.
Donc ça s'annule.
Le film plastifon est plutôt beau, tu vois. Tu peux dire le contraire.
Je peux pas dire le contraire. C'est vrai qu'il y a aucun... Mais je m'attendais un petit peu plus que juste une belle plastique.
Oui, mais par exemple, comme la scène, par exemple, où ils mangent des champignons. Je me dis, ah cool, ils étaient un peu rigolés. Bah, non, ils rigolent face cam, mais ça s'arrête un peu là. C'est ça manque un petit peu quand même de folie, des fois, visuellement, je trouve.
Ouais. C'est un premier film ? Question.
Il me semble
non,
pas.
Non.
Je vais lancer Lila et je cherche l'info. Lila.
Ouais. Du coup, j'allais juste répondre sur le fait que je crois pas que ce soit un premier film. J'ai vérifié. C'est relativement tôt dans sa carrière, mais c'est pas son premier.
Son deuxième,
deuxième film. Mais après, effectivement. Là où je dois un peu mitiger mon avis, c'est qu'il y a quand même des moments où je me suis ennuyée. Ce qui était déjà le cas dans Nocturama de Bonello et qu'avec le recul, j'aime quand même beaucoup. Là, on va voir comment ça décante, mais il y a des moments où j'ai trouvé ça long. Mais pour moi, en fait, au final, je retiens plus le nom de Jasper Wolf à la photographie que le nom de... Alejandro Landes.
Tout à fait. Mais tu as tout à fait raison sur la question de décanter. Je pense que c'est le genre de film qui se comprend à moyen long terme, ça peut mettre en négatif, mettre en positif, mais effectivement le temps long peut aider. Nam, un dernier mot ?
Non, j'ai rien.
C'est parfait.
Non, mais moi je veux bien le prendre le dernier mot pour dire que au stade où j'ai vu ce film dans l'année, effectivement le film est peut-être pas incroyable, mais je trouvais que c'est une des premières vraies propositions de cinéma qu'on a en cette année 2020, et voilà, et ça fait plaisir pour
de
ça.
De toute façon on peut déjà fermer les top 10 sur 2020
De toute façon faudra juste les compléter dans 6 mois quand les films reviendront au cinéma.
Super, on va avoir que des blockbusters décalés.
Oui,
Troll 2.
Troll 2. Merci beaucoup pour Monos.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.